Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de cette première partie de Religion du monde, la République démocratique du Congo, puis la Turquie. La République démocratique du Congo avec le bras de fer entre l'Église et le président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré en décembre 2016 et qui n'a pas tenu ses engagements d'organiser fin 2017 des élections. La deuxième marche du 21 janvier, dimanche dernier, organisée par un collectif catholique soutenu par la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, et qui a rassemblé des catholiques et des protestants, a été comme celle du 31 décembre violemment réprimée. On compte 6 morts par balle parmi les manifestants, dont une jeune femme de 24 ans qui a été tuée à l'intérieur de la paroisse Saint-François de Sales en voulant protéger une fillette. Thérèse Deschadé-Kapangala, nièce d'un prêtre, s'apprêtait à entrer dans la vie religieuse. Et à noter que ces jours derniers, des prêtres affirment avoir échappé à des tentatives d'enlèvement ou être menacés de mort. Mardi, dans un communiqué lu à la presse, le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, a vivement condamné la répression policière.
Sommes-nous dans une prison à ciel ouvert ? Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et vieux, scandant cantiques religieux, munis des bibles, chapelets, crucifix ? Que veut-on au juste ? Le pouvoir pour le pouvoir, ou bien le pouvoir pour le développement intégral du peuple dans la paix, la justice et la vérité. Nous voulons que règne la force de la loi et non la loi de la force.
Pour nous éclairer sur ce bras de fer entre l'Église et le pouvoir et aussi sur la place de l'Église dans la société congolaise, avec nous dans ce studio, Samuel Pomeray du CCFD Terre Solidaire, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Samuel Pomeray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge au CCFD de la région des Grands Lacs. Vous suivez de très près cette crise politique. Alors une première question, comment réagissez-vous à cette implication de l'Église?
Alors l'Église catholique, en effet, depuis quelques semaines, joue un rôle de premier plan dans l'opposition au président Kabila, qui est toujours au pouvoir en RDC, alors même que le pays, depuis plus d'un an, aurait dû désigner un nouveau chef de l'État. Mais cette implication, elle n'est pas nouvelle, elle est même ancienne, puisque dès 2015, l'Église catholique avait alerté sur le risque que les élections n'aient pas lieu. Régulièrement, elle a adressé des messages au pouvoir et aux partis politiques, les enjoignant de prendre leurs responsabilités. Elle a même mené une médiation entre l'opposition et le président Kabila en décembre 2016, qui avait abouti à des accords, dits les accords de la Saint-Sylvestre. Ces accords prévoyaient une mise en place progressive d'un dispositif électoral cette année, en 2017. Ça n'a pas eu lieu, donc l'Église, le 31 décembre dernier, enfin plutôt la coordination des laïcs, a décidé de manifester à la sortie des offices. Cette manifestation a été réprimée dans le sang, et depuis, la mobilisation continue et s'amplifie. L'Église est dans son rôle, elle a toujours assumé un rôle politique, au nom de la doctrine sociale, un rôle de défense des droits civils des citoyens congolais, et aujourd'hui, elle présente un front uni face à un pouvoir qui est visiblement sourd à la demande du peuple. C'est finalement un bras de fer entre le peuple congolais et le pouvoir congolais. L'Église n'en est qu'une partie prenante.
Bon, alors l'Église, pas toute l'Église quand même, hein. L'Église est quand même, il y a quand même certaines divisions.
L'Église est composée d'hommes, donc évidemment il y a sûrement des différences d'appréciation, mais je pense que quand même l'institution est unie face au pouvoir en place. Il y a peut-être des différences entre ceux qui croient qu'un compromis est possible avec le pouvoir et ceux qui n'y croient plus. C'est plus là-dessus que ça se joue, puisque l'institution, elle, soutenue par le Saint-Siège, fait front.
Alors on a le sentiment que l'Église aujourd'hui prend le relais de l'opposition ancienne, qu'aujourd'hui c'est l'opposition.
Disons que l'opposition au Congo est quand même largement discréditée. Quand le cardinal Mosengo parle des médiocres, bien sûr je pense que ça s'adresse au pouvoir en place, mais pas uniquement. C'est une opposition qui est aussi opportuniste, qui aujourd'hui, depuis la mort de Tshisekedi, n'a plus de chef, n'est plus unie, et cède assez facilement aux sirènes du pouvoir. Oui, l'Église aujourd'hui assume un leadership moral et finalement politique, je dirais dans le sens noble du terme, face encore une fois à un pouvoir qui ne cherche qu'une chose, c'est se maintenir.
Alors, vous évoquez donc ce rôle de l'Église, effectivement, par rapport à la justice sociale, j'allais dire, par rapport aux engagements que le pouvoir avait pris, hein, effectivement, que des élections aient lieu. L'Église a une véritable légitimité au Congo, dans la mesure où elle est très impliquée, hein, vous le rappeliez, aussi bien dans l'éducation que dans toutes les œuvres sociales.
Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est une force populaire, l'Église. À peu près 40% de la population, 35 millions de fidèles. Elle est culturellement très ancrée au Congo. Et puis, en effet, l'Église, elle assume un rôle dans l'éducation, près de 60% des écoles, la santé, mais également dans la vie économique du pays, au niveau national et puis dans chaque diocèse. Donc, en effet, elle est tout à fait légitime aux yeux des Congolais, catholiques ou non, d'ailleurs. Donc, elle est légitime, et voilà, pour faire respecter les droits fondamentaux des Congolais.
Le CCFD, donc le Comité catholique contre la faim et pour le développement, travaille depuis des années et des années en République démocratique du Congo. Quels sont vos programmes menés sur place, avec l'Église notamment sur place?
Parmi nos actions en République démocratique du Congo, nous collaborons en effet avec des commissions de l'Église catholique, ça soit la commission justice et paix sur des programmes d'éducation à la citoyenneté, de non-violence, de culture de la paix. On travaille aussi avec la commission épiscopale pour les ressources naturelles, qui est une commission épiscopale qui fait du monitoring sur toutes les activités liées aux ressources naturelles congolaises, minières, pétrolières, forestières. C'est une commission importante, puisqu'elle dénonce le scandale du pillage du Congo depuis des années. Elle n'hésite pas aussi à désigner les responsables, qu'ils soient militaires ou politiques ou économiques. Donc c'est des commissions que nous soutenons, et puis nous travaillons aussi dans certains diocèses avec les équipes des bureaux diocésains de développement sur des programmes agricoles, sur des programmes de développement local. Donc c'est un acteur important, un acteur de la société civile finalement congolaise. Donc nous les accompagnons, nous soutenons bien sûr les structures. Nous sommes très engagés aussi sur toutes les questions d'éducation civique, puisque l'Église, dans les diocèses, sur le terrain, forme, sensibilise, informe les populations sur leurs droits et leurs devoirs civiques. Ça fait partie de toute la dynamique de démocratisation de la société congolaise. C'est une dynamique au long cours, et l'Église, c'est vrai, utilise aussi son réseau pour faire avancer cet esprit civique au sein de la population congolaise. Donc finalement, aujourd'hui, sa mobilisation, elle est complètement logique et en accord avec sa mission du niveau le plus local au niveau national. Elle ose affirmer la nécessité de respecter les droits politiques et civils des Congolais.
En fait, l'Église est un véritable réseau en République démocratique du Congo.
Oui, on dit que c'est la dernière institution qui est encore debout. Alors oui, c'est vrai que, y compris dans les années les plus sombres du conflit congolais, au début des années 2000, l'Église a résisté. Elle a apporté des services de base aux Congolais, et puis elle a continué à porter une parole, y compris dans les moments les plus difficiles. Elle a été en pointe sur tout ce qui est dénonciation de la corruption, le pillage des richesses, le scandale de ce pays qui est pourvu de richesses formidables, mais qui échappe totalement aux populations. L'Église, depuis longtemps, a porté une parole, et puis elle s'est finalement aussi organisée pour pouvoir faire le monitoring, faire du plaidoyer, écrire des rapports, porter des combats politiques au niveau congolais, mais aussi au niveau international, puisque la commission épiscopale pour les ressources naturelles a participé au plaidoyer européen pour l'encadrement des minerais du conflit, est régulièrement en contact avec des acteurs de la solidarité comme le CCFD, mais aussi comme le réseau ERAC, qui à Bruxelles fait du plaidoyer pour la région des Grands Lacs. Donc c'est une église, je dirais, oui, en effet, combattante au sens propre du terme, et en tout cas qui assume sa mission inspirée de la doctrine sociale de l'Église.
Et menée par effectivement un cardinal très audacieux, non?
Ah oui, il y a la personnalité en effet de l'archevêque de Kinshasa, qui est une personnalité en effet autant couleur, engagée depuis longtemps, mais pas uniquement et pas uniquement lui.
Il y a la CENCO aussi, c'est-à-dire la conférence épiscopale. Hein.
Voilà, au Congo. En effet, il y a des personnalités autant couleur et engagé, mais on peut pas réduire le combat de la CENCO à ses personnalités, parce que il y a, je pense, une unité déjà quand même. On le voit là ces derniers jours. La CENCO, je dirais, défend ses membres, défend sa mission, défend son action. Et puis sa mission, c'est pas de se poser en opposante. Sa mission, c'est permettre au Congo, aux citoyens congolais, d'enfin avoir accès à leur droit fondamental, qui est le droit de voter.
Ce bras de fer entre l'Église de la République démocratique démocratie du Congo et le pouvoir. Comment voyez-vous la suite, Samuel Pomeray?
Je pense que malheureusement, à court terme, il y aura encore des violences. Pourquoi? Parce que d'abord, le pouvoir est de plus en plus refermé sur lui-même, autour d'un noyau dur qui veut absolument se maintenir. Et ensuite, parce que la détermination des Congolais est totale. Depuis de très longs mois, il y a des mobilisations citoyennes, que ça soit derrière l'Église aujourd'hui, mais aussi derrière les nouveaux mouvements citoyens, comme Filimbi, Lucha, le Réveil des Indignés. Au niveau local, à Kinshasa, dans les grandes villes, les gens se mobilisent pour réclamer leurs droits. Donc je pense que les Congolais ne baisseront pas les bras, ils ne veulent pas être humiliés par un pouvoir qui aujourd'hui se maintient contre vents et marées. Donc on peut craindre en effet ces violences. Après, je pense qu'à moyen terme, ce qu'il faut, c'est un processus politique, et ça, c'est les Congolais qui ont la clé de ce processus politique pour aboutir en effet à une transition, et puis aussi pour établir un pacte politique et social renouvelé dans ce pays qui est quand même qui en a grandement besoin. Aussi, un autre enjeu, c'est la position de la communauté internationale. Il est temps de passer des paroles aux actes, et enfin de poser des mesures coercitives contre le clan au pouvoir. Pour l'instant, les sanctions ne visent que des ministres ou des proches de l'appareil d'État. Il est temps que les responsables soient désignés. Il faut absolument faire un front uni là-dessus. Et malheureusement, certains pays, des sources diplomatiques parlent de l'Espagne et de la France, traînent un peu les pieds. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est au nom de la réelle politique ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux, peut-être économiques, mais il est temps qu'au niveau de l'Union européenne et des Nations unies, il y ait une réponse vraiment forte et immédiate de la communauté internationale.
Je remercie Samuel Pomeray. Je rappelle que vous êtes en charge au CCFD de la région des Grands Lacs. Je vous remercie.
Religion du monde, Geneviève Delru.
En Turquie, les mariages religieux sunnites sont désormais directement reconnus par l'administration turque. La République, fondée en 1923 par Atatürk, avait pourtant mis fin à la loi islamique et était restée depuis basée sur ce principe de laïcité. La loi turque donc attribue depuis peu de temps aux muftis le droit de consacrer des unions légales sans passer par la mairie. Un changement qui fait débat, c'est votre reportage Camille La France, réalisé à Istanbul.
Oui, jusqu'à peu, la procédure de mariage était avant tout administrative. Elle se faisait donc dans des mairies. Ceux qui voulaient consacrer leur union ensuite religieusement pouvaient en parallèle se rendre dans une mosquée ou bien dans une église même. Mais dans les faits, des couples turcs sunnites, musulmans, se contentaient de passer par un moufti sans rien officialiser en mairie. Alors c'est un phénomène qui était en augmentation avec l'arrivée des migrants syriens qui ont trouvé refuge en Turquie, 3 millions de personnes, et qui passaient donc par un moufti pour certains, par habitude ou simplement par manque d'information. Mais seulement, leurs unions n'étaient pas officiellement reconnues, ce qui pourrait engendrer un tas de problèmes comme les mariages précoces, voire même des risques de polygamie, ce qui est interdit ici. Et c'est justement l'argument de Sezal Kaynar, qui est représentant à Istanbul du syndicat des affaires religieuses qu'on appelle Diyanet Sen.
Nikah kıydığı zaman gerek şu anda daha önceki kanunda belirtilen kişiler yani.
Pour tout mariage, il y a des règles promulguées de longue date qui sont à respecter. Les maires ont toujours pu consacrer ces unions. Maintenant, ceux qui le voudront, ceux qui en feront la demande, pourront voir cette union prononcée désormais par un mufti. Comme les maires et autres personnels administratifs, nous sommes tous soumis à des procédures officielles. Les muftis suivront les mêmes règles. Les muftis ou les personnes qu'ils désigneront pourront consacrer des mariages et les enregistrer auprès de l'administration. La lutte que nous menons depuis 10 ans pour l'adoption de cette loi a justement pour but d'empêcher le mariage sous l'âge légal et pour que les unions soient consacrées dans le respect des lois. Les critiques relèvent complètement d'une approche idéologique. S'il n'y a rien d'enregistré officiellement et qu'il arrive quelque chose au couple demain, la femme se retrouvera sans aucun droit. Par contre, si l'union est enregistrée, on n'a plus tous ces problèmes.
Alors Camille, c'est un discours qui se veut rassurant. Officialiser ces mariages est donc présenté comme une garantie légale, une manière d'abolir les pratiques informelles qui persistent dans certaines régions du pays. Le personnel des mosquées sunnites a le statut de fonctionnaire en Turquie. C'est une des particularités de ce pays où la conception de la laïcité est tout aussi particulière. Alors d'ailleurs, comment peut-on, Camille, définir la laïcité turque aujourd'hui ?
Alors c'est pas l'acception française qu'on connaît, hein. On peut parler de laïcité teintée de sunnisme. La religion majoritaire est directement sous contrôle de l'État, d'un ministère des affaires religieuses, le Diyanet Sen, dont on a entendu un représentant. On parle même parfois de synthèse turco-islamiste. C'est une expression consacrée, hein, pour désigner un mélange d'islam et de turcité comme ciment national. Toujours est-il que malgré cette particularité, beaucoup se demandent pourquoi sur cette affaire du mariage, au lieu d'octroyer de nouveaux pouvoirs aux mouftis, les représentants sunnites de la religion, le gouvernement n'a pas plutôt encouragé tout simplement l'enregistrement systématique de ces mariages religieux en mairie. Et je vous propose d'écouter une députée du principal parti d'opposition, le CHP, elle s'appelle Selina Doğan.
Imaginez un parent qui a une fille de 14 ans, ils vont le faire en pratique, cet mariage devant le mufti, en pensant que quand elle aura l'âge légal, ils vont le faire officiellement. C'est déjà une pratique et ça va le normaliser.
Alors Camille, quelles sont les garanties ou bien les garde-fous face à ces arguments qui sont opposés ?
C'est là toute l'ambiguïté de ce sujet, hein. Aucun de mes interlocuteurs, pas même l'imam du Diyanet Sen, n'a été en mesure de m'assurer comment très concrètement, les mouftis transmettront les informations à l'administration quand ils consacreront directement des mariages. Alors même s'ils promettent qu'ils seront tenus de remplir les mêmes informations que le personnel municipal, avec les mêmes critères légaux, techniquement, il est difficile de savoir comment, sous quel délai, ces dossiers seront ensuite centralisés. Et pour l'instant, aucune transmission informatique ne semble être prévue, hein, selon lui. Comme le craint donc la députée qu'on vient d'entendre, il y a un risque que des mariages religieux précoces soient consacrés, que les documents administratifs correspondants ne soient pas remplis directement dans la foulée ou pas transmis correctement, ce qui pourrait permettre donc des pratiques a priori illégales et permettre même éventuellement de truquer ces dossiers qui conserveraient en fait toute l'apparence de la légalité.
Alors la Turquie compte d'autres groupes non sunnites. Comment ces groupes vivent-ils cette nouvelle disposition ?
Eh bien, ils le voient comme une atteinte directe à ce principe de laïcité dont on parlait. C'est le cas par exemple des Alévis qui sont des musulmans non sunnites et qui représenteraient jusqu'à 20% de la population turque. Ils se sentent donc exclus par cette nouvelle norme qui favorise une mouvance, une religion, le modèle hanéfite sunnite qui est la référence en tout temps des autorités turques.
Et on va entendre des représentants, hein, que vous avez rencontrés de cette communauté alévi, un dédé, hein, qui est le représentant religieux, c'est comme l'imam ou le prêtre pour les catholiques, et Doğan Beremek, qui est le président du centre de philosophie alévi.
Biz aleviler olarak böyle bir şey kabul etmiyoruz. Çünkü medeni kanunun...
En tant qu'Alévi, nous n'acceptons pas une telle loi, car c'est le code civil qui assure la liberté de chacun, surtout les droits et la liberté de la famille, qui est la plus petite unité de la société. En résumé, cette loi n'est pas juste. Ça ne servirait à rien, sauf à diviser la société. En outre, celle-ci met la laïcité en danger.
Je suis tout à fait d'accord avec le Dédé. C'est une tentative de plus d'islamisation du pays par le gouvernement. Ils savent que ça n'a pas de justification technique ou bureaucratique. En Turquie, on a des municipalités. Chacune a l'autorité de conduire des cérémonies de mariage. Et ça s'est très bien passé depuis des années. Ce n'est pas obligatoire de passer par un moufti. C'est ce qu'ils répètent, mais ils essayent de rendre ça obligatoire à terme. Donc c'est la première étape de l'unification du pays. Leur but est de créer une nationalité sunnite hanafite.
Alors Camille, quelle est la réaction du président Erdogan à ces critiques ?
Le chef de l'État accuse l'opposition d'être déconnecté des réalités du pays. Il lui est reproché en retour de vouloir diviser la société.
Je vous remercie Camille Lafrance pour ce reportage que vous avez réalisé à Istanbul. Merci. On se quitte pour 3 minutes d'info. On se retrouve après le flash et vous êtes bien à l'écoute de RFI.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. L'invité de cette deuxième partie de Religion du Monde est Antoine Fleifel pour son livre « Les dieux criminels » publié aux éditions du CERF. Antoine Fleifel, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous êtes franco-libanais, vous êtes professeur de philosophie et de théologie à l'Université catholique de Lille et vous êtes un spécialiste des chrétiens d'Orient. Dans votre livre, vous vous penchez sur l'évangélisme sioniste, sur le sionisme religieux et sur le salafisme djihadiste. Les trois, finalement, se rejoignant sous ce titre, les dieux criminels. Alors, c'est quand même déjà un titre assez provocateur, les dieux criminels.
C'est à bon escient. Alors, je vous explique l'histoire et la genèse de ce livre. Il y a une histoire double qui est derrière. La première et la plus directe, ce sont mes enseignements à Lille, où je suis. Alors, le matin, j'avais un cours qui porte sur le mystère de Dieu, un cours de théologie fondamentale où je parle du mystère de la Trinité et où j'évoque aussi certains courants de théologie dites de facture libérationnelle comme la théologie noire, la théologie de la libération, la théologie d'Alit. Et dans ce cours, je montre comment Dieu est un facteur de libération pour les gens qui veulent se débarrasser du joug social, politique, économique, injuste, etc. Le soir, j'enseigne un cours de géopolitique des religions et j'insiste en montrant comment Dieu est utilisé pour opprimer les peuples. C'est ce qu'on appelle en géopolitique l'instrumentalisation de la religion pour des buts de pouvoir. Et je me disais, mais c'est quand même un peu bizarre. Le matin, je parle de Dieu, il libère. Le soir, il opprime. Il y a un problème quelque part. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'écrire un livre parlant de l'instrumentalisation de la religion ou de l'idée de Dieu par la politique. Mais j'ai découvert au cours de mes recherches que si la politique instrumentalise la religion le lui rend très bien. Et qu'il y a une double instrumentalisation qui a comme point d'ancrage une apocalypse parce que les trois courants que j'étudie sont des courants qui cherchent l'apocalypse, donc qui cherchent la fin du monde. Et c'est ainsi que je me suis plongé dans ces trois idéologies que vous avez mentionnées. Et d'ailleurs, j'ai intitulé le titre du livre « Les dieux criminels » parce qu'à mon sens, ce dieu que ces idéologies véhiculent ne sont pas de véritables divinités. Ce sont des idoles, ce sont des fantasmes, ce sont des créations, des constructions au nom de qui on tue. Donc, c'est ma première motivation directe pour écrire ce livre. Mais ma seconde motivation, qui est beaucoup plus profonde, qui s'ancre dans des années d'expérience et d'engagement pour les chrétiens d'Orient, c'est que je suis franco-libanais, mais en tant que chrétien d'Orient, je suis touché d'une manière directe par ces trois idéologies. Que ce soit l'évangélisme sioniste, à travers l'appui indéfectible des États-Unis pour la politique israélienne, ce qui a des conséquences très mauvaises pour les autres États, à travers le sionisme religieux en Israël qui compromet la création d'un État palestinien et qui d'ailleurs compromet aussi la présence des chrétiens palestiniens dans plusieurs endroits dont Bethléem. Et troisièmement, le salafisme djihadiste. Bien sûr, toute la terre est concernée, mais surtout nous, dans la région du Moyen-Orient.
Alors Antoine Fleifel, votre démarche est quand même très particulière et ciblée parce que généralement, effectivement, quand on veut expliquer l'instrumentalisation de la religion, on s'appuie sur diverses disciplines. On va effectivement convoquer la géopolitique, on va convoquer la politique, on va convoquer la sociologie, la justice, etc. Alors que là, vous, votre démarche, c'est que vous plongez dans les fondements des textes religieux.
C'est ce que mon étude entend apporter comme originalité dans la compréhension de ce phénomène. Alors, les études portant sur l'explication du phénomène religieux à partir des disciplines que vous évoquez sont légion. Il y en a beaucoup et elles sont parfois très bonnes, parfois mauvaises, parfois moyennes. Et il faut s'appuyer sur toutes ces disciplines pour comprendre, car la compréhension du phénomène de la radicalisation de la violence religieuse ne se peut faire à partir d'un angle unique. Il nous faut plusieurs angles. Mais à mon sens, et peut-être que c'est une spécificité française en raison d'un héritage laïque, ou 68 ans, on essaie d'éviter de parler de la religion, parfois pour ne pas blesser, parfois par dédain, parfois par mépris, parfois par ignorance. Et moi, je viens dire que, oui, certainement, la sociologie, l'anthropologie, la géopolitique, la politique, tout ça peut expliquer une partie de la chose. Mais si vous ne vous plongez pas dans le texte religieux lui-même, dans l'origine de la constitution de ces théologies idéologiques, l'essentiel vous échappera parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question politique et économique ou régionale. Il y a un fondement religieux interprété d'une manière amené à cette violence.
Mais c'est souvent tabou, effectivement, d'aller sur ce terrain-là.
Ah, heureusement que je suis théologien et que je suis légitime quand je parle de ces questions.
Alors, commençons par les évangéliques sionistes. En quoi, finalement, menacent-ils la paix? Et d'où viennent-ils?
Les évangéliques sionistes sont des évangéliques. Donc, qui est une branche du protestantisme, bien ancrée aux États-Unis, mais partout ailleurs dans le monde. C'est la religion qui progresse le plus au monde,
oui,
plus que l'islam.
40 millions, vous avancez ce chiffre, c'est beaucoup.
Tout à fait. Alors, les évangéliques sionistes sont des évangéliques qui croient que l'État d'Israël est la réalisation des prophéties bibliques et que c'est la dernière étape avant l'arrivée du millénium, ce règne millénaire du Christ sur terre où il y aura la paix et où le mal sera détruit, mais ce règne qui met à l'honneur, au passage, Israël, puisque ce règne se fera à partir du troisième temple qui sera reconstruit. Ils sont 40 millions. Si on ne comprend pas la culture américaine et l'importance de la Bible pour la constitution des États-Unis depuis le XVIe siècle, on ne comprendra pas pourquoi ils pensent ainsi. Ils sont 40 millions parce qu'ils sont très sensibles au peuple juif, très sensibles au peuple hébraïque, ils ont bien lu l'Ancien Testament, ils l'ont bien assimilé, il fait partie intégrante de leur foi, d'une manière encore plus importante que chez les catholiques et chez les orthodoxes ou chez les protestants traditionnels. Et étant très nombreux, ils sont dans les lieux les plus importants du pouvoir aux États-Unis, que ce soit le pouvoir politique ou économique, et à partir des lieux où ils sont, ils essayent d'agir d'une manière qui correspond à leurs croyances.
Mais alors remontons à l'origine de l'évangélisme sioniste.
C'est le XVIe siècle.
Oui.
Ce sont les chrétiens protestants qui découvrent l'Ancien Testament, qui était peu lu ou pas beaucoup lu avant dans le milieu catholique, et dès le début du XVIIe siècle, des courants apocalyptiques, donc attendant la fin du monde, des courants apocalyptiques naissaient dans le contexte anglais. Et ces courants apocalyptiques disaient ce qui suit. Et en cela, je suis en train de vous dire que le sionisme est une invention chrétienne avant d'être une invention juive au XIXe siècle. Ces courants apocalyptiques disaient que il faut trouver le peuple juif, le rassembler en terre de Palestine, le convertir et ainsi le Messie reviendra. Il y a une petite nuance avec ce qui se dit aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus de conversion. Non qu'on n'y croit plus, mais pour des raisons politiques, on préfère mettre cette question de côté et apporter un appui indéfectible pour Israël, mais toujours dans un but apocalyptique.
Et alors à quel moment le sionisme évangélique va rencontrer le sionisme en Israël?
Ah, c'est très récent. Ils ont commencé dans les années 70 et les lobbies sionistes juifs aux États-Unis étaient prudents au début. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent cela? Cela veulent nous convertir. Mais après, les sionistes évangéliques ont mis de côté cette revendication sans la laisser tomber, mais ils n'en parlent plus beaucoup. Parfois, ils en parlent d'une manière assez camouflée. Néanmoins, dans les années 80, les sionistes juifs se sont dit, cela veulent tout faire pour nous, et d'ailleurs ils le prouvent depuis les années 70. Et ce qui a mené à cette action commune, ce sont les événements au Moyen-Orient. C'est surtout 1973, la guerre du Kippour, ou la guerre dite de Téchirin, du côté arabe. Cette guerre où les partisans d'Israël, qu'ils soient chrétiens, évangéliques ou qu'ils soient juifs, se sont dit, oh, il y a un danger. Les acquis d'Israël en 67, la guerre des six jours, risquent d'être perdus. Il faut tout faire pour maintenir ces acquis. Il faut tout faire pour défendre Israël. Il faut tout faire pour agir de manière à ce que les traités de paix ne compromettent pas ce rêve du grand Israël qui est le passage obligé vers la réalisation du millénium. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à militer ensemble. Et aujourd'hui, nombre d'organisations évangéliques sionistes sont reçues par le premier ministre israélien, par les hauts responsables israéliens. Ils s'en vont, ils font des pèlerinages, ils s'installent dans les colonies, ils aident à l'évolution du royaume de Dieu sur terre.
Et il semblerait d'ailleurs même, Antoine Fleffel, qu'ils soient plus royalistes que le roi. Parfois, en Israël, on leur dit, oula.
Oui, à plusieurs époques des processus de paix, dont celui d'Oslo, les gouvernements israéliens acceptaient de jouer le jeu des accords internationaux et acceptaient de démanteler des colonies, acceptaient de ralentir leur politique de colonisation. Eh ben non, les évangéliques sionistes étaient là pour leur dire « jamais, il ne faut pas le faire ». Et lorsque l'État israélien coupait les subventions de certaines colonies en respect à ces accords, les évangéliques sionistes étaient là pour donner eux-mêmes de l'argent, parce que des levées de fonds pour aider Israël, surtout les colonies, il y en a beaucoup, et nous ne parlons pas d'une petite levée de fonds de 10 000 ou 200 000 ou $1 million. Nous sommes dans des dizaines, voire dans des centaines de millions de dollars, et probablement plus.
Quelques noms de la politique liée à ces évangéliques?
Alors, il y a deux présidents américains, qui étaient des évangéliques sionistes, le président Carter et le président Reagan. Et d'autres présidents américains ne l'étaient pas, mais n'étaient pas contre. De façon, il y a George Bush qui était un newborn, donc je parle du fils, mais il y a le père aussi qui allait dans le sens de cette politique. Il y a bien sûr Clinton qui allait dans le sens de cette politique sans être ouvertement un évangélique sioniste. Obama est celui qui a brisé la chose, mais avec Donald Trump, c'est le grand retour de l'évangélisme sioniste. Non que Trump soit le plus pieux des chrétiens.
Pas vraiment.
Ce n'est pas son centre d'intérêt, sauf que le vice-président, Pencer, est un fervent évangélique sioniste qui ne le cache pas. Je n'ai pas besoin d'analyser certains textes pour vous dire, vous voyez, il est évangélique sioniste. J'ai juste besoin de vous montrer ce qu'il dit et vous verrez à quel point ce monsieur est engagé pour Israël selon la manière dont il l'envisage.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Antoine Fleifel pour son livre « Les dieux criminels » publié aux éditions du Cerf. Passons à présent, Antoine Fleifel, aux sionistes religieux en Israël. Israël, au départ, s'est créé sur une base sioniste totalement laïque. Ça, c'est le grand changement au XXe siècle.
Tout à fait. Theodor Herzl, qu'on considère comme l'une des figures majeures du sionisme, est une personne laïque, probablement. Herzl ne s'intéressait pas aux questions religieuses d'une manière personnelle parce qu'il était un produit des lumières juives. Donc voilà, avec toutes les distances que cela supposait avec la chose religieuse.
Donc des lumières juives, effectivement.
La Haskalah, qui est un mouvement de lumière mené par le philosophe Moshe Mendelssohn, qui a permis au judaïsme de s'ouvrir à la modernité, c'est-à-dire d'accepter les lectures critiques du texte, d'accepter les acquis de la modernité, la séparation des deux domaines religieux et laïque et temporel. Le judaïsme s'est inscrit dans cela, et d'ailleurs c'est ici que nous trouvons la naissance du judaïsme orthodoxe, qui était une réaction à ces lumières juive et qui s'est ancrée dans la tradition en disant que, bien sûr, on peut s'ouvrir au monde, mais pas de manière à compromettre l'intégrité des textes qu'il faut toujours comprendre selon les herméneutiques ou les manières de comprendre classiques qui sont dans la tradition.
Le sionisme né en Russie à la fin du XIXe siècle.
Le sionisme est né dans ces régions suite au malheur que subissaient les communautés juives. Il ne faut jamais oublier, oui, tout ce qu'ont subi les juifs en Europe, même bien avant le 19e siècle. L'histoire du judaïsme en Europe est une histoire qui est parsemée par la violence, par la persécution. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais il y a une expérience très douloureuse qui a mené ces sionistes pionniers au 19e siècle, dont Theodor Herzl, à trouver une solution. N'oublions pas qu'il écrit et qu'il pense dans une époque où il y a aussi l'affaire Dreyfus et ce qui s'est passé aussi en Russie. Donc il se disait, mais il faut en finir avec cette persécution, d'où le projet de créer un foyer juif où les juifs ne subiront plus ces aléas des grandes puissances ou des interprétations religieuses de leur présence.
Alors on pourrait penser effectivement que les orthodoxes ou les ultra-orthodoxes pourraient être tout à fait en accord, puisque c'est la réalisation du grand rêve.
Absolument
alors que, contraire, c'est tout
absolument
le contraire
pas.
Qui se pose.
Ils étaient tout à fait opposés à ce projet. Parce que pour eux, la restauration d'Israël ne se fera que par miracle divin. Si l'homme contribue à la création d'Israël, il est en train de faire un péché. Dans le Talmud, il existe ce qu'on appelle la tradition des trois serments. Dieu aurait fait prêter aux hommes trois serments. Deux aux Juifs, leur disant « Vous ne ferez pas la guerre aux autres et vous n'essayerez pas de vous rétablir en Terre Sainte. » Et troisièmement, le serment est fait aux païens, aux non-juifs, leur disant « Vous ne persécuterez pas le peuple juif outre mesure. » Mais selon la théorie des trois serments, selon cet enseignement, le juif n'a pas le droit de chercher à bâtir lui-même l'État d'Israël.
Pas d'activisme messianique.
Absolument pas. C'est pour cela que au 19e siècle, au début du 20e, il y avait une opposition radicale entre ces deux grands courants du judaïsme. L'un sioniste est laïque et l'autre religieux et anti-sioniste. D'ailleurs, aujourd'hui, ces anti antisionistes, on les trouve toujours en Israël, ce sont ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes qui rejettent l'existence même de l'État israélien. D'ailleurs, certains parmi eux se sont affichés avec l'ancien président iranien Ahmadinejad. C'est une question certes politique, mais c'est juste pour comprendre pourquoi des juifs peuvent être contre l'État d'Israël. Le fondement est religieux.
Et comment la rencontre s'est faite ?
La rencontre s'est faite à travers des rabbins qui étaient orthodoxes, juifs orthodoxes, donc qui rejetaient quelque part les Lumières, pas tout à fait, mais qui avaient des distances, des rabbins orthodoxes qui ont accepté l'idée du sionisme. Le rabbin par excellence qu'il faut mentionner sur ce point, c'est le rabbin Cook.
Les deux, en fait.
Mais c'est surtout le père. Le fils n'est pas un grand penseur comme le père, c'est surtout un homme du terrain qui a fait beaucoup de choses pour la colonisation. Sauf que le père Abraham Cook était un hegelien. Hegel, dans sa philosophie de l'histoire, dit que l'esprit absolu, donc Dieu, tel qu'il le comprend, agit dans l'histoire de manière à ce que les grandes puissances s'inscrivent dans son projet, mais sans le savoir. Rabbin Cook, dans la même logique, a dit « Écoutez, ces laïcs sionistes, ils ne sont peut-être pas croyants, ils n'agissent pas pour la restauration du royaume, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire bâtir un État d'Israël, va dans le sens du projet divin de la restauration de la terre. » Ainsi, avec le Rabbin Cook, les deux grandes oppositions se sont mises ensemble. On est sioniste, c'est-à-dire on veut bâtir un foyer national pour les juifs, mais on est religieux, c'est-à-dire qu'on considère que cet État qu'on est en train de bâtir s'inscrit dans la trame théologique de l'Ancien Testament, celui de la terre promise que Dieu a donnée à son peuple.
Est-ce que c'est ce qui lui fait dire, bien qu'ils ne mettent pas les tifilines, ils mettent les pierres qui édifieront le pays d'Israël?
Tout à fait.
C'est ça. Hein?
Selon cette lecture qui, encore une fois, s'ancre chez Hegel, tout ce que les hommes font est au service de Dieu. Même si ce qu'ils font peut paraître comme contraire, mais Dieu, en fin de compte, récupérera ça pour sa plus grande gloire. Comment alors, s'il s'agit d'un pas en avant vers la restauration de cette royauté ou de cet État juif?
Alors, ce que vous décrivez très bien, avec beaucoup d'exemples dans les dieux criminels, c'est cette montée en puissance de ces sionistes religieux.
Alors, cette montée en puissance se fait parallèlement à la montée en puissance de l'islamisme et à la montée en puissance de l'évangélisme sioniste.
Oui, mais ça commence déjà quand même dans les années 60, avec 1967 déjà.
Ces événements sont centraux pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours aujourd'hui. Il y a une chose que j'enseigne toujours en disant un fondamentalisme en appelle un autre. Si mon ennemi se radicalise, normalement j'ai tendance à me radicaliser. Et donc il y a eu une radicalisation mutuelle dans tous les sens, parce que dans les années 50 et 60, la militance dans le monde arabe contre Israël, ou la militance d'Israël pour son existence, se faisait au nom du nationalisme, se faisait au nom de l'appartenance à la terre, quelle que soit l'interprétation qu'on puisse lui donner. Ces nationalismes ont été un échec. Surtout en 73, on a constaté que ces nationalismes ne menaient nulle part. Et on s'est dit, si le nationalisme ne mène nulle part, tournons-nous vers la religion. Ainsi, le monde arabe, avec la majorité démographique musulmane, s'est progressivement tourné vers l'islam politique, l'islamisme surtout incarné par les frères musulmans et leurs avatars par la suite.
On en parlera plus tard.
Et dans le judaïsme, il y a eu cette radicalisation aussi. Et nous sommes progressivement passés d'un sionisme de gauche, un sionisme laïque, un sionisme avec lequel d'ailleurs il était possible de faire la paix. On est passé à plusieurs reprises à côté de la paix.
Avec Yitzhak Rabin, on l'avait eu.
Bien sûr, c'est une occasion ratée. Il est malheureux qu'on ait raté cette occasion pour arriver à l'impasse actuelle qui malheureusement est sans issue, paraît-il.
Yitzhak Rabin, donc le Premier ministre assassiné par un sioniste religieux.
À fait, parce qu'il agissait contre la loi divine. Il compromettait la foi et la religion.
Et donc, alors revenons au texte, il y a eu cette sacralisation de la terre qui a monté, monté, monté.
Et pas que la terre, dans le sionisme religieux, on sacralise la terre, on sacralise l'État, on sacralise l'armée israélienne.
En tant qu'instrument à ce moment-là
de... Instrument divin.
Divin, oui.
Parce que tout ce qu'il y a ici est une réalisation des prophéties. Tout cela se comprend à partir de l'histoire du peuple hébraïque, des royaumes de David. Et voilà, c'est... Nous passons vraiment d'un sionisme laïque à un sionisme religieux et très malheureusement, aujourd'hui, ce sionisme religieux a de plus en plus d'influence au sein de la société israélienne. Charles Anderlin, le journaliste, que j'apprécie beaucoup, j'ai lu plusieurs de ses ouvrages, dit qu'il y a 50% de militaires israéliens, de l'armée israélienne, qui font partie de ce courant. Supposons qu'il exagère. S'ils sont 40%, c'est aussi inquiétant. S'ils sont 30%, c'est inquiétant. Et n'oublions pas aussi, toujours en s'appuyant sur ces sources israéliennes ou juives, que la majeure partie des colons adhèrent aussi à cette idéologie. Si nous rêvons d'un État palestinien, et sur ce territoire, il y a un peu moins d'un million de colons. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Le droit international vous demande de partir. Ils vont vous dire, je m'en fiche de votre droit international. Cette terre, Dieu me l'a donnée. Et je me battrai jusqu'à la mort. De toute façon, Dieu sera avec moi.
En conclusion de ce grand chapitre sur le sionisme religieux, Antoine Fleifel, vous dites voilà, ce sionisme-là a horreur de la paix.
Ce sionisme, comme toutes les idéologies, ont horreur de la paix parce que la paix éloigne l'eschatologie, parce que la paix éloigne la réalisation plénière du plan divin, étant donné que dans la paix, on va parler avec l'autre. Sauf que l'autre, dans cette vision religieuse qui est exclusive, donc qui exclut l'autre de la vérité, l'autre est mauvais, ou au moins l'autre est inférieur. Mais si on parle avec lui, c'est qu'il faut faire des compromis, et faire des compromis, c'est compromettre le plan divin, et la terre surtout, ce qui est impossible dans le cadre de cette idéologie.
L'accueil très positif de la population israélienne par rapport à la décision de Donald Trump de transférer, qu'il reconnaisse Jérusalem comme la capitale d'Israël, est-ce que selon vous, effectivement, ça rentre tout à fait dans ce discours religieux qui a totalement imprégné, je dirais, la population?
Tout à fait. Je l'ai déjà dit dès le mois de septembre lorsque mon livre a paru. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes conférences et dans des interviews à la télé et à la radio. Et je le redis, la réalisation de cette promesse s'ancre dans le théologique. Certainement, les États-Unis ont des intérêts économiques, géostratégiques, géopolitiques avec Israël. Il n'y a aucun doute. Il y a des enjeux aux États-Unis avec les lobbies juifs, avec la communauté juive, sans aucun doute. Mais ce qui s'est passé est principalement théologique. Donald Trump respectait la promesse qui a été faite aux évangéliques sionistes.
Alors, on terminera avec vous, Antoine Fleifel, sur la troisième partie de votre livre, sur ce dieu criminel aussi, du côté des salafistes djihadistes. Alors, sur quoi se repose-t-il? Sur quels auteurs?
Il n'est pas seulement question d'auteur, il est aussi question d'une lecture précise de la tradition.
Oui, mais ils ont leurs références, par exemple. Alors,
les références peuvent remonter au 9e siècle, c'est-à-dire chez le fondateur de la 4e des écoles juridiques qui s'appelle Ibn Hanbal, qui a une lecture très rigoureuse. Mais il n'est pas forcément que ça. Il y a des choses bien chez Ibn Hanbal. Sauf que l'interprétation le présente comme tel. Le personnage historique central, c'est Ibn Taymiyyah, au XIIIe siècle. Ibn Taymiyyah qui a des réflexions qui ne sont pas mauvaises, mais qui a des réflexions extrêmes, comme par exemple lorsqu'il dit que si la prière est la tête de la religion, le djihad est sa couronne. Il met presque le djihad au-dessus de la prière, quand même, qui est le centre de toute pratique religieuse.
C'est la promotion du djihadisme, pas du djihad intérieur, mais du grand djihad.
Tout à fait. Alors, c'est toujours pas le djihad tel qu'on le comprend au XXe siècle, mais en partie, ça l'est. Puis, il y a Ibn Abd al-Wahhab, le fondateur du wahhabisme au XVIIIe siècle, qui a repris Ibn Hanbal et Ibn Taymiyyah et qui les a constitués en référence juridique pour le royaume qui naissait, le royaume saoudien, dont cette branche obscurantiste, à mon sens, de l'islam est l'islam officiel, le wahhabisme. Et à ce mélange, pour faire un cocktail explosif, il faut ajouter au moins une figure majeure du XXe siècle, à savoir Sayyid Qutb, cet architecte de l'idéologie des frères musulmans, mort dans les prisons de Nasser en 1966, qui, lui, a idéologisé le djihadisme et qui en a fait le fer de lance de la militance de l'islam politique. Et ce djihadisme consiste à dire, soit toute la terre se soumet à Dieu parce qu'elle en est persuadée, Allah, le Dieu de l'islam, soit c'est par la force que toute la terre sera soumise à Dieu et à l'islam. Et c'est à partir de ce cocktail explosif qu'agissent les organisations terroristes tristement célèbres comme Al-Qaïda, comme l'État islamique, comme Boko Haram et comme beaucoup de groupes qui agissent au nom de cette pensée criminel.
Les quelques points majeurs de la doctrine, vous citez effectivement l'importance fondamentale du texte sacré, la référence permanente au prophète, la fixité de la doctrine.
Pour cette fixité, c'est commun à ces trois idéologies.
C'est ça.
Il y a une herméneutique possible, normalement elle est passéiste, on rejette toute pensée critique. Et c'est le problème. C'est-à-dire qu'on rejette tout dialogue. Et pour parler du salafisme djihadiste, au centre de tout cela, il y a la notion du takfir. Donc de considérer que l'autre est mécréant. Et le salafisme djihadiste considère que tout ce qui n'est pas lui est de la mécréance, est du kofr. Et à partir de cela, ce sont des gens avec qui on ne peut pas parler.
Et alors ça va effectivement du non-croyant au chiite.
Même à l'autre sunnite. Même le sunnite qui n'est pas dans leur école, une école hanbalite wahhabite, le sunnite qui est soufi par exemple, c'est-à-dire mystique, le sunnite qui est mu'tazilite parce qu'il y a le néo-mu'tazilisme, donc ce sont des sunnites
philosophes,
qui utilisent
hein.
le philosophe,
oui.
tout à fait. Et même les autres écoles juridiques de l'islam comme la hanafiya ou la shafi'iya, même les autres écoles sont rejetées parce que soit vous êtes exactement comme moi et vous êtes soumise à moi, soit vous êtes mauvaise et donc passible de mort.
En conclusion, Antoine Fleifel, je reprendrai presque la formule que j'ai pu lire dans votre introduction, c'est que ce livre, vous le vouliez pour construire la paix.
Absolument. Peut-être que le titre est provocateur, le contenu est violent, il faut dire les choses telles quelles. Notre guerre de demain est peut-être sur le terrain, en partie, avec des gens violents comme cela, mais la guerre de demain est surtout une guerre des idées. Et aujourd'hui, avec tous les moyens qui sont à notre disposition, les idées, personne ne peut les arrêter. L'antidote contre cette violence, c'est le dialogue, c'est la pensée critique, c'est l'acceptation de la diversité, de l'altérité, c'est la liberté de conscience, c'est la démocratie, ce sont les droits de l'homme, c'est à partir de ça qu'on peut bâtir un avenir, et cet avenir, c'est à tout le monde de le bâtir. Qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit athée, qu'on soit agnostique, quel que soit notre horizon, mais il faut accepter de vivre dans un monde pluriel où nous sommes tous des citoyens égaux.
Et cool, le Dieu soit amour et pas criminel.
C'est voilà. ma foi de chrétien.
Bon, c'est le titre de votre livre, hein, Les Dieux criminels, et c'est publié aux éditions du CERF. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.